Alors merci, c'est vrai, pour ce temps qu'on peut partager ensemble. C'est vraiment un bonheur hein, pour Gilles et pour moi de pouvoir être en vacances, je dirais, et de pouvoir en même temps être encouragé dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Et voilà, aujourd'hui je vais vous donner ce message qui est un peu inspiré par, bien sûr, notre contexte hein, pendant ces vacances. Vous voyez la mer, cette voile à l'horizon, la Bretagne, n'est-ce pas? Et moi, je suis toujours inspirée par la contemplation de la nature. C'est toujours pour moi vraiment une source d'émerveillement. Et vraiment, la nature est riche aussi en enseignement. Et je lirai dans le psaume 24, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Alors Jean-Marc et Francine nous demandaient, mais pourquoi vous persistez? Vous persévérez à venir en Bretagne? Bon, je pense que vous avez tous la réponse, en fait. Hein. On est bien en Bretagne. Vous êtes tous d'accord. Et puis, moi, j'aime la mer. Et j'aime tout spécialement, en fait, le littoral breton. Je dirais, avec cette diversité de paysages. Je disais à Gilles, on n'est pas obligé d'aller toujours sur la même plage en Bretagne. Il y a une multitude de plages et chacune est différente. Et moi, j'aime beaucoup aussi me balader à marée basse, quand on voit les rochers donc, qui affleurent ou qui émergent. Et il y a toute une vie, là, donc toute une vie quand la mer se retire. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de ramasser les coquillages qui sont sur les rochers, mais j'étais en contemplation devant un rocher, et j'ai vu vraiment que ce rocher était plein de vie. Donc, a priori, c'était un relief, c'était mort, mais dessus, il y avait des moules, il y avait des bigorneaux, des patelles, donc en forme de chapeau chinois, mais vous connaissez tout ça. Et il recouvrait les rochers autour de moi. On avait l'impression qu'ils faisaient corps, vraiment, avec le rocher. Et ils faisaient tellement corps que je n'arrivais pas à les décoller à main nue. Et pourtant, je voyais bien qu'il y avait une vie qui n'était pas mort. Et en poursuivant, j'irais mon observation sur ces rochers, j'ai remarqué que même s'ils m'apparaissaient indécollables, en fait, ils bougeaient. Oui, en fait, ils se déplaçaient. Ils se déplaçaient, c'était infime peut-être, mais avec leurs pieds. Et pour moi, ça a été une découverte. Alors vous allez me dire pourquoi je parle de coquillages, de rochers ce matin. Et bien, ça va être le thème de mon message. Donc, si tu veux l'afficher, voilà. Accroché à Christ comme une moule à son rocher. Alors, pourquoi ce thème? Alors c'est vrai que parallèlement à mon observation, il y a cette expression qui m'est revenue ou qui m'a été dite en parlant de quelqu'un, qu'il était accroché, que cette personne était accrochée à une autre personne comme une moule à son rocher. Et je me suis dit, mais nous chrétiens, ça fait sens en fait. Hein. Nous aussi, on est accrochés, mais on est accrochés à un rocher et à ce rocher qui est Christ. Et ce que je vais développer en fait dans ce message. Alors, qu'est-ce qu'un rocher? Donc cette grande masse de pierre, une masse dure, une masse en fait solide sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Et ça dégage une image vraiment de puissance, une image vraiment de durabilité. Et on peut s'appuyer dessus sur ce rocher, il ne va pas s'écrouler. Il tient bon, il est stable, on dirait ça dépend lesquels. Et dans la Bible, le mot rocher revient très souvent, il y a beaucoup d'occurrences. Et dans l'Ancien Testament, cette image du rocher revient constamment dans les psaumes. Et je dirais par exemple dans le psaume 18, le verset 3, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. » Donc vous êtes gâtés en Bretagne parce que vous avez tous ces rochers autour de vous qui peuvent vous rappeler sans cesse en fait qui est votre rocher. Dans Deutéronome, il est dit aussi au chapitre 32, verset 4, « Le Seigneur est un rocher protecteur. Il agit de manière parfaite. » Donc c'est vrai, il y a cette solidité, mais aussi d'ailleurs ce rocher, cette protection, le fait qu'il est là aussi pour nous, pour nous garder à l'abri. Dans son cantique, dans le cantique d'Anne, dans 1 Samuel 2, chapitre 2, verset 2, elle dit « Personne n'est saint comme l'Éternel. » Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Donc oui, Dieu est ce rocher, symbole de sécurité, de protection devant le danger, mais aussi de stabilité, de droiture. Dieu est là pour nous, Seigneur. Et quand j'ai peur, quand je suis envahie par le doute, quand je ne sais plus où je vais, qui je suis, eh bien Dieu est ce rocher où je suis en sécurité. Et tous les êtres humains ont besoin de sécurité. C'est une valeur universelle de tout temps, sur toute la Terre. C'est un des premiers besoins de l'homme. Et pour nous développer et nous épanouir, eh bien, nous avons besoin que nos besoins essentiels soient couverts. Alors, vous connaissez la pyramide de Maslow, qui définit un peu des priorités dans nos besoins, dans l'ordre des besoins, des désirs, des motivations. Donc, cette pyramide, c'est vrai, nous apprend en fait sur la manière dont on fonctionne, même si maintenant on a un petit peu revu en fait ce qu'elle mettait en avant, mais retenons quand même que c'est important que tous nos besoins soient satisfaits. Alors il y a un ordre peut-être hiérarchique, mais qui peut être contestable, mais quand même, c'est vrai, si on a faim, on a soif, si nos besoins physiologiques ne sont pas couverts, eh bien on a du mal en fait à se projeter, à aller plus loin dans les autres besoins. Mais on peut voir dans cette pyramide, donc besoins physiologiques en priorité, c'est la base, hein, avoir de la nourriture, avoir de quoi se vêtir, avoir un toit. Mais tout de suite après, c'est les besoins de sécurité qui arrivent, et les besoins de confiance, tout de suite après ces besoins physiologiques. Et puis Dieu, notre rocher, nous donne aussi un sentiment d'appartenance, d'unité. Dans la première épître aux Corinthiens, donc au chapitre 10, verset 4, Paul parle des Israélites. Ils étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse et il nous dit « Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. » Ce verset a une signification à la fois, je dirais, historique et spirituelle. L'eau qui est sortie du rocher, cela fait référence aux épisodes dans Exode, dans le livre des Nombres, où Moïse, sur l'ordre de Dieu, frappe un rocher pour en faire jaillir de l'eau et abreuver le peuple d'Israël. Le miracle s'est accompli aux yeux de tous. Tous les Israélites avaient bénéficié de cette eau miraculeuse. Mais ce rocher aussi spirituel, il est dit dans ce verset qu'il les accompagnait. Et là, c'est une manifestation aussi de la présence de Dieu. Dieu aurait été littéralement, je dirais, eh bien, aurait littéralement suivi le peuple dans ses pérégrinations sous cette forme de rocher. C'est sa protection, là aussi, que l'on retrouve. Et puis, enfin, dans ce verset, je dirais le point central qui nous est dit, ce rocher était Christ. Et Paul insiste par là que le rocher n'était pas un simple objet inanimé, il était une manifestation symbolique, une préfiguration de Christ. Cette image renforce l'idée de Christ comme un fondement solide, inébranlable, une source de vie, de réconfort. L'eau qui jaillit est une métaphore de l'esprit qui jaillit. Christ est la source de l'eau vive qui désaltère notre âme. Ce verset exprime aussi le fait que Christ était déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Il était présent symboliquement avec le peuple d'Israël tout au long de son histoire. À la fin de sa vie, dans le passage de Deutéronome 32, et notre slide, merci, qui fait partie du cantique de Moïse, Moïse va rappeler ces événements et la présence de ce rocher qui va les secourir à divers moments. Je vais lire ce verset. Donc, l'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Et ce passage établit la fidélité exclusive de Dieu envers Israël. Il n'y avait pas d'autre Dieu. L'Éternel seul a conduit son peuple. Dieu promet de faire jaillir la prospérité et la douceur même dans les endroits les plus arides. Il comble son peuple même à partir de ce qui est stérile apparemment et dur comme ce rocher. Et on voit que du rocher, eh bien, plusieurs choses sont sorties, à savoir l'eau, le miel, l'huile, l'eau qui est la source de vie, de purification, symbole aussi du Saint-Esprit, le miel, symbole de la parole de Dieu et de ses bénédictions. On entend ce verset dans le psaume 119, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et puis l'huile, enfin, l'huile qui sort du rocher, l'huile qui est l'agent de consécration, d'onction, d'équipement pour le service. Christ, notre rocher, un refuge, un abri, mais aussi le rocher qui nous apporte plus qu'une nourriture pour couvrir nos besoins, je dirais matériels, nos besoins terrestres, mais aussi nos besoins spirituels. Et c'est également sur ce rocher que nous pouvons bâtir notre maison, notre vie, comme dans la parabole de Jésus que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre ces maisons. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. La parabole de Jésus renvoie donc à travers le rocher à Dieu sur qui le croyant peut s'appuyer pour vivre. Toutes les pluies peuvent tomber et les tempêtes du monde souffler. La maison tient bon. Notre vie tient bon. Les épreuves ne nous mettent pas par terre. Non, car Dieu est là, par sa présence. Nous avons des fondations solides en Christ, un ancrage suffisant. Mais ce que nous dit la parole également, c'est celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. S'appuyer sur le roc, s'appuyer sur Dieu, c'est mettre en pratique les paroles de Jésus et le connaître. C'est prendre la parole et l'appliquer à notre vie. C'est ne pas être cet auditeur oublieux dont nous parle Jacques dans son épître au chapitre 1. Mettez en pratique la parole, nous dit-il, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette moule fixée sur son rocher, accrochée au rocher comme un rempart. Mais qu'est-ce qui fait que la moule tient sur son rocher? Alors, j'ai observé et puis j'ai cherché à comprendre aussi. Alors, ce qui l'a fait tenir, en fait, vous l'avez dû aussi l'observer, ce sont tous ces fins filaments qu'elle tisse entre elle et le rocher. Il y aurait 50 à 100 filaments qui tiennent chaque moule à son rocher. Et c'est une opération qui se renouvelle, en fait, sans cesse, pour qu'elle soit bien fixée sur son support. Et ces petits cheveux, là, qui sont sur la moule et qui nous embêtent quand on veut manger des moules, parce qu'on est obligé de les enlever, ça s'appelle la barbe ou encore le byssus. Et ces filaments sont à la fois, c'est vrai, élastiques et résistants. Ils ont des propriétés vraiment étonnantes et les chimistes vraiment commencent à s'y intéresser car ces filaments offrent des débouchés dans l'industrie, ce serait encore plus fort que la superglue. Et dans la Bible, il est question aussi de ce byssus, de ces filaments. Et il s'agirait en fait d'une étoffe des plus fines et des plus précieuses qui était portée eh bien, par le roi David, aussi par les prêtres et les personnes de haut rang ou d'honneur. Il en est question dans le livre des Chroniques, dans le premier livre des Chroniques, où il nous est dit que David était revêtu d'un manteau de byssus. Alors en hébreu, je crois que c'est boots. Et il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Et de ce byssus, donc de cette barbe, il en est de ce tissu-là, de cette étoffe, il en est question aussi dans Jules Verne, dans 20 000 lieues sous les mers. Et il nous est dit aussi que, enfin, je vous cite ce passage dans 20 000 lieues sous les mers, « Bientôt j'eus revêtu mes vêtements de byssus, fabriqués avec les filaments lustrés et soyeux qui rattachent aux roches les jambonneaux, sorte de coquilles très abondantes sur les rivages de la Méditerranée. » Bon, il y en a aussi en Bretagne. Donc ce byssus, c'est une matière finalement très précieuse, soyeuse, et comme je disais tout à l'heure, elle offre aussi une alternative aux matières premières polluantes, pétrochimiques, dans la fabrication de textiles traditionnels. Elle peut aussi, cela peut servir aussi, ce byssus, pour la fabrication de textiles, d'isolants thermiques, d'absorbants acoustiques, Et tant et si bien qu'il y a une entreprise qui est pas loin de chez vous, à Cancale, la start-up Bisco, qui transforme cette fibre naturelle, donc sécrétée par les moules, en matière textile destinée au secteur du bâtiment. Ça remplacerait le chanvre dans certains cas. Donc ces matières possèdent, c'est vrai, des propriétés isolantes qui sont intéressantes. En plus, c'est ignifuge et on disposerait en France, selon France Agrimer, d'environ 4500 tonnes de byssus qui sont disponibles chaque année. Extraordinaire, non? Cette matière qui vient des moules et de ce qu'elle fabrique. Alors, quel lien avec nous, en fait? Parce que nous, on est, en tant que chrétiens, c'est vrai, je disais, pour commencer donc, ce message, donc, nous sommes appelés à être aussi accrochés à notre rocher qui est Christ. Mais est-ce que nous ne devrions pas aussi développer, tirer tous ces fils pour être bien reliés à notre rocher, si nous voulons tenir bon? Alors, comment, je dirais, comment développer ces filaments? Donc on n'a pas cette facilité qu'à la moule, mais on en a d'autres. Alors je crois que comme la moule, c'est bien d'être baigné chaque jour, de prendre notre bain. Hein, donc la moule, on sait, elle est tout le temps avec les marées, il y a l'eau tout le temps qui est là, qui la baigne. Eh bien nous aussi, on a besoin, je dirais, de prendre un bain spirituel chaque jour. Et pour prendre ce bain spirituel, ben, il y a plusieurs formes. On n'est pas obligé d'aller non plus dans la mer, mais pourquoi pas? Mais tout simplement déjà de s'arrêter. S'arrêter pour rechercher la face de Dieu. Faire silence. Tout à l'heure, on a fait un moment de silence. C'est tellement précieux que de faire silence. Faire silence pour accueillir Dieu. Programmer même des temps de silence quand on commence sa journée. Des temps de rencontre et pour cela choisir un lieu propice. On peut bien sûr avoir des rendez-vous avec Dieu, des rendez-vous même qui sont organisés dans notre agenda. Mettre une alarme aussi au besoin sur notre téléphone pour nous rappeler ce rendez-vous. Alors je vous livre aussi les conseils du pasteur Peter Scazzero, que vous connaissez peut-être. Il a fondé avec son épouse Jerry le mouvement Emotionally Healthy Spirituality. Spiritualité émotionnellement saine. Et il nous conseille, c'est vrai, pour nos rendez-vous eh bien avec Dieu, de débuter par 2 minutes de silence et de terminer de même. Rester 2 minutes à accueillir déjà Dieu dans notre vie. Et puis une manière aussi, de profiter de ces rendez-vous, c'est aussi se concentrer sur le souffle. Chaque inspiration et chaque expiration est un don de Dieu. On dit souvent que la prière, c'est une respiration. Mais est-ce qu'on le vit vraiment comme tel? Et moi, j'aime, c'est vrai, prier en respirant. Et c'est quelque chose qui a été pratiqué, en fait, il y a déjà très longtemps, par les Pères du désert, donc qui priaient la prière de Jésus sur l'inspiration et sur l'expiration. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, en inspirant, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Alors on peut prier en respirant aussi d'autres prières, simplement même le nom de Jésus, Jésus, ce précieux nom, le nom du Père, ou Abba, se concentrer. Alors pour tisser ces filaments, un bon moyen bien sûr c'est de lire la Bible, donc avoir un plan de lecture par exemple. Vous pouvez en avoir un par exemple sur l'application YouVersion, ou avoir sur papier aussi un plan de lecture en 1, 2 ans, voire même 6 ans, je crois que ça existe aussi. Pour apprendre à mieux le connaître, on a parlé de ça aussi pendant ce culte, l'importance de toujours mieux le connaître, et pour ça il n'y a pas de limite, on le sait bien. Chaque jour on peut puiser dans sa parole, et c'est important de le faire, de puiser cette nourriture, cette manne dont nous avons tellement besoin. Ces filaments qu'on peut aussi réaliser entre Dieu et Christ, entre nous et Christ notre rocher, c'est aussi par la prière, une prière régulière, une prière que l'on peut faire seul, mais aussi avec d'autres. Là aussi, avoir des rendez-vous dans la prière. Je sais que dans cette église, vous pratiquez mère en prière. Quel bonheur pour des femmes de se retrouver ensemble et de prier les unes avec les autres. Ça favorise aussi l'unité dans le corps de Christ. Ces filaments aussi, ce qu'on construit en fait dans notre relation avec Christ, ça peut être aussi alimenté par des lectures, le fait de lire des livres inspirés, des livres qui nous aident à aller plus loin dans notre connaissance aussi de la Bible, mais aussi des témoignages, des témoignages de serviteurs de Dieu qui nous ont précédés. C'est toujours inspirant de lire la biographie d'autres personnes et de découvrir leur spiritualité. Et puis enfin, j'irais aussi avoir une règle de vie. Les règles de vie, c'est pas facile quand on prononce le mot règle en général. Il y a un blanc parce que les gens n'aiment pas tellement les règles. Ça se rapporte peut-être à l'enfance ou je ne sais pas. Mais pourtant, les règles de vie sont tellement salutaires. Elles représentent aussi ce qui nous est cher. Elles représentent aussi nos valeurs. Elles définissent pourquoi on fait les choses, pourquoi on fait ce qu'on fait et comment. Les moines, eux, avaient une règle et ont toujours une règle de vie. Ils s'arrêtent et ils prient. Ils ont des heures pour cela. 7 fois par jour, ils se mettent devant leur Seigneur. Et nous, à l'Église de Paris, on a des étudiants INSTE, donc qui étudient avec l'Institut de théologie par extension INSTE. Et ils se fixent des objectifs, en fait, et prient pour les atteindre. C'est une manière aussi de développer cette règle de vie et de savoir où nous voulons aller, quels sont nos objectifs. Alors c'est vrai, il nous est possible à chacun, c'est vrai, de tisser ces filaments. Peut-être vous les avez déjà tissés, mais je crois qu'on peut toujours en tisser davantage. Il n'y a pas de limite. On ne doit pas se lasser et se contenter, je dirais, de ce qu'on a vécu autrefois avec Dieu, au moment de notre conversion, dans notre jeunesse, ou à telle ou telle époque de notre vie. Je crois que c'est important, à toute étape de notre vie, de veiller sur l'état de nos liens, sur notre santé spirituelle. Et c'est vrai que face aux vagues, face aux courants marins, eh bien le byssus de la moule s'use comme une corde. Mais la moule recrée continuellement de nouveaux filaments pour une bonne fixation. Alors c'est une invitation aussi pour nous, j'irais dans cette comparaison avec la moule, à renouveler sans cesse aussi nos liens, à rechercher sans cesse à nous approcher de Dieu pour vivre des choses nouvelles. C'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas accompli une fois pour toutes. Je suis chrétien, mais pas pratiquant, on entend des fois. Ce serait comme un sportif qui ne s'entraînerait qu'occasionnellement, ou un musicien qui ne toucherait jamais son instrument de musique. C'est important de veiller vraiment sur l'état de nos liens. Où est-ce que nous en sommes? Oswald Chambers, qui est un missionnaire et un enseignant écossais du début du XXe siècle, disait « Une grande peur m'a envahi récemment. Une peur qui m'a forcé à m'agenouiller sur le champ en prière devant Dieu. Un homme que j'avais connu bien des années auparavant, un homme de Dieu qui m'avait beaucoup impressionné et qui n'avait plus rien à dire. Je ne voyais plus aujourd'hui qu'un homme bavard et vain, qui se raccrochait à une image vide de son passé. Vain comme un homme dont l'esprit s'est asséché par manque d'exercice et qui n'attend plus que la mort. » Alors ça ne nous arrivera pas, bien sûr, parce que voilà, chacun veille sur lui. Mais peut-être que ça vous est arrivé de voir un ami, un frère, qui avait pris des distances, qui ne fonctionnait plus que par habitude dans sa relation avec Dieu, qui était desséché. Jésus, dans le sermon sur la montagne, en parle lui aussi de cette nécessité d'être toujours, je dirais, actif dans notre relation avec Dieu. Il nous dit dans Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Oui, nous sommes le sel de la terre et nous avons une responsabilité de garder toujours cette saveur qui nous est propre. Alors, qu'est-ce qu'on apprend encore de la moule? Qu'est-ce que j'ai encore appris de mon observation? Parce que je crois encore une fois que la nature nous apprend beaucoup. Je vous ai dit que la moule était indécollable, certes, mais qu'elle pouvait quand même un peu bouger de son support. Que ces filaments, en fait, qu'elle avait créés, ben, ils étaient quand même souples, même s'ils étaient résistants. Donc c'est important, cette flexibilité de ce byssus qu'elle fabrique. Et parfois, à force de tempête, eh bien, la moule se décroche et elle est emportée. Et une fois arrivée dans un lieu, un coin plus calme, elle sort son pied pour repérer les lieux et elle peut ainsi se déplacer en fait de 10 cm à 1 mètre. Et une fois son futur domaine choisit, eh bien, elle s'installe dans un endroit calme et où vivent de préférence d'autres moules, et elle tisse à nouveau sa toile. Donc apparemment, la moule prend des décisions face au danger, la décision d'aller ailleurs. Et en effet, lorsque vous placez alors un prédateur, alors je crois que ce sont les homards, les araignées de mer qui seraient les prédateurs de la moule, et si vous en placez donc un ou une près de la moule, eh bien elle sort son pied pour se déplacer, signe qu'elle a repéré le prédateur. Et enfin, c'est vrai qu'elle cherche, on voit toutes ces, sous ces essaims de moules, elle cherche toujours à se rapprocher de ses congénères. Parce que si elle se laissait porter par les courants uniquement, elle serait très dispersée. Et elles aiment se regrouper. Donc les moules semblent vraiment choisir leur lieu de villégiature en fonction de l'environnement immédiat et rechercher la présence d'autres moules. Alors je retiendrai deux enseignements importants pour nous. Eh bien, d'abord, il nous appartient de choisir notre environnement. Qui avons-nous autour de nous ? Est-ce que nous avons des homards ? Ou est-ce que nous avons d'autres chrétiens ? Alors, je crois que s'il y a des homards, il est préférable de s'en éloigner si l'on ne veut pas être mangé. Ou bien corrompu, je dirais, par leur exemple. Donc, attention à nos relations. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et puis enfin, un autre enseignement, j'irais à l'image là aussi des moules, il est bon d'avoir une bergerie. Il est bon de se regrouper avec d'autres personnes qui, elles aussi, sont accrochées au même rocher que nous. Il est bon de ne pas être isolé dans sa foi. La présence d'autres croyants nous fortifie, c'est ce que nous faisons ce matin. Ça nous fait du bien, nous nous encourageons, nous nous supportons, nous prions les uns pour les autres. Nous nous édifions. Et quand l'un tombe, eh bien, l'autre est là pour le relever. Et c'est là, enfin, dans cette bergerie, que nous pourrons grandir, nous développer, nous épanouir et porter du fruit. Alors oui, c'est important de ne pas rester seul. Oui, c'est important de choisir ton environnement. C'est important, j'irais, donc de réfléchir à qui suis-je accroché, où est-ce que je trouve mon secours quand ça ne va pas, vers qui je me tourne, de qui je dépends ou de quoi, qui est mon rocher finalement, et de prendre cette décision, si vous n'avez pas encore prise, de se consacrer à Jésus, de tout lui remettre. Et puis, je dirais aussi, si Christ est déjà votre rocher, si vous le reconnaissez comme tel, bien de réfléchir à quelle intimité tu as avec Christ. Tout à l'heure, on a parlé, il y a eu cette parole sur la profondeur, c'est vrai, de notre connaissance de Christ. Quelle est notre profondeur ? Jusqu'où on va ? Jusqu'où on est prêt à aller ? Est-ce que ça se limite ? Est-ce qu'on se pose soi-même des limites ? Est-ce qu'on en reste là où on en est ? Ou est-ce qu'on a envie de grandir ? Donc, est-ce que tu as des liens et comment tu les développes ? Est-ce que tu es tellement accroché que rien ne peut te décoller, en fait, de ton rocher ? C'est ça le but de tous ces petits filaments. Est-ce que ta relation avec Jésus, c'est de la superglue. Est-ce que tu es enraciné dans sa parole ? Ou bien est-ce que tu sens certains jours que ça vacille, je dirais, qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour que tu te décolles ? Alors veillons, c'est vrai, veillons toujours à renouveler nos liens, comme on l'a vu précédemment. Et puis dans notre environnement, regardons, est-ce qu'il y a des personnes dangereuses, des personnes vraiment qui pourraient nous menacer ? On a parlé des homards, mais aussi des personnes qui nous affaiblissent dans la foi. Est-ce qu'il faut entretenir ces relations ? Bien parfois, savoir rompre aussi, comme la moule qui fuyait, qui allait s'installer ailleurs. Est-ce qu'il faut savoir couper des liens ? Couper des liens qui nous emprisonnent ou qui nous empoisonnent ? Est-ce qu'on doit vraiment couper notre byssus dans ces cas-là et aller recréer ailleurs ? Alors oui, Dieu nous invite à grandir. Dieu nous invite à nous approcher toujours davantage de lui et, selon sa parole, pour être transformé à son image, transfiguré de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Je crois qu'il y a une dernière slide, voilà, qui nous dit « Développe ton intimité avec Christ ». Et vraiment, c'est un appel à plus de profondeur dans ce mot « intimité ». Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot « intimité » ? On sait comment c'est d'être intime avec un ami ou intime avec une personne. C'est la fréquenter plutôt assidûment. Une intimité, ce n'est pas quelque chose qui s'effiloche, c'est quelque chose qu'on entretient. Donc, entretenons notre intimité avec Christ. J'espère que dans les propositions que je vous ai faites ce matin pour tisser vraiment ces filaments, vous en retiendrez peut-être une. Peut-être ça suffit d'ailleurs, une. Dans quel domaine je pourrais accroître, c'est vrai, ma relation avec Christ pour être encore plus ancrée, pour être encore plus accrochée à mon rocher. Ça, c'est à vous de faire le point, à vous de le dire. Est-ce que ce sera dans la prière? Est-ce que ce sera dans la lecture de la parole? Est-ce que ce sera dans la communion fraternelle? Est-ce que ce sera dans le silence aussi, l'importance de l'écoute de Dieu? En tout cas, je vous souhaite vraiment tous d'être accrochés à votre rocher. Amen.